Vous écoutez France Culture.
Eh bien, il paraît que tout le monde aime la musique de Mozart, et il paraît même que les oiseaux l'aiment, que si on veut faire chanter des oiseaux en cage, les malheureux, il n'y a qu'à jouer de la musique de Mozart, ils sont enchantés.
Il appartient à tellement de monde que on ne se l'approprie qu'avec tout de même une certaine prudence.
Chez Mozart, chaque fois que j'ai demandé quelque chose, Mozart me l'a apporté, à quelque moment que ce soit. Il n'y a pas d'exemple que mettant un disque sur mon électrophone et mettant un disque de Mozart, je n'ai pas écouté ce que j'ai voulu écouter. Et ressenti ce que j'ai voulu ressentir.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui en direct d'Aix-en-Provence où se tient le Festival d'art lyrique, nous sommes sur le parvis de l'IEP. Voici une vie, une œuvre, Mozart. Ça s'est passé en mai dernier à Montrouge, au sud de Paris. L'habitant d'un immeuble décide de faire fuir les dealers en bas de chez lui en diffusant à sa fenêtre les Noces de Figaro. Et aussi surprenant que cela paraisse, la bande s'en va effectivement, ne supportant pas la musique du grand compositeur autrichien. Alors il s'agit évidemment d'une anecdote qui n'est pas en elle-même significative, sauf que c'est tout de même Mozart et pas un autre compositeur que cet habitant a choisi pour incarner la musique classique, la culture classique, la paix, la sérénité. Des notions que Mozart incarne davantage que n'importe quel autre compositeur. Sa place est donc à part, son nom est connu de tous, même de ceux qui ne sauraient pas, en entendant sa musique, dire qu'elle est de lui. Alors qu'est-ce qui rend donc Mozart si spécial, si différent des œuvres dans sa postérité, dans son succès jamais démenti, lui dont le nom est devenu à tout jamais synonyme de génie ? Nous allons tenter d'apporter aujourd'hui des éléments de réponse en racontant les grandes étapes de sa vie. Et si nous avons choisi d'en parler ici, c'est bien évidemment parce que le Festival d'Aix a une longue tradition mozartienne. En 1952, déjà, on le jouait ici.
Ici Aix-en-Provence, d'où Daniel Le Sur et Noël Boyer vous présentent ce soir les nouvelles musicales.
Les discussions passionnées qu'avait suscité Don Juan lors de sa création, il y a 3 ans, se renouvellent à propos des noces. Chacun se révèle un mozartien éclairé. Tout le monde se découvre une conception personnelle du rôle de tel ou tel personnage et se sent subitement dépositaire d'une tradition sacrée en ce qui concerne les mouvements. Les terrasses des cafés sur le célèbre cours Mirabeau entendent jaillir les idées à une cadence véritablement étourdissante. C'est fou ce que les gens sont intelligents. Ils comprennent tout de suite et sans le moindre effort. À peine ont-ils gagné leur place que déjà ils sont nantis d'une sorte d'infaillibilité. Une chose qui les préoccupe par-dessus tout, le croiriez-vous, c'est de savoir quel âge doit avoir le comte dans les Noces de Figaro. Leur conception là-dessus varie, chose curieuse, avec le nombre de leurs printemps personnels. Mais voyons donc ce que pensent de ces représentations les vrais critiques.
Alors, 62 ans après cette archive, nous avons nous aussi nos vrais critiques. Ils sont même plus que des critiques, mes deux invités d'aujourd'hui. D'abord, Bernard Faucroul, bonjour, merci d'être avec nous, alors que vous avez fort à faire en ce moment, puisque vous êtes le directeur du Festival d'art lyrique qui nous accueille aujourd'hui. Vous êtes également compositeur et organiste. Cette archive qu'on vient d'entendre, vous êtes l'héritier, vous, de ce festival qui déjà jouait Mozart. Est-ce que c'est un festival mozartien, ici, à Aix-en-Provence, le Festival d'art lyrique ?
Oui, mais ce qui fait sans doute la différence, c'est qu'en 1952, ou dans ces années-là, je pense que Mozart, c'était quasi une redécouverte, si vous voulez. Alors qu'aujourd'hui, l'œuvre mozartienne, on la connaît, on l'a parcourue, reparcourue, disséquée, on est allé dans tous les coins les plus obscurs rechercher des œuvres de jeunesse, etc. Et donc, on n'a pas forcément la même spontanéité ou le même sentiment de découverte. Et donc, je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est que ce sentiment de découverte, il continue à se mettre en mouvement, mais forcément sur d'autres répertoires, sur des créations, sur d'autres zones oubliées du grand répertoire lyrique. Mais Mozart reste, à mes yeux, au cœur de, non seulement de ce festival, mais de notre imaginaire de l'opéra, parce qu'il en intègre, il en incarne, je pense, la plus belle partie. Enfin, on ne peut pas imaginer le monde de l'opéra. Je trouve même qu'on ne pourrait plus imaginer l'humanité sans les opéras de Mozart aujourd'hui.
À ce point-là.
Oui.
Mais je le disais dans le chapeau qui précédait, de son vivant, il a été beaucoup joué. Il n'y a pas eu tellement quand même de purgatoire. Alors on l'a peut-être redécouvert, comme vous le disiez, dans les années 50, mais quand même globalement, comment expliquer cet artiste sans purgatoire?
Alors, oui, c'est un artiste qui n'a pas disparu de la circulation comme ça a pu être le cas de Jean-Sébastien Bach, par exemple, qui vraiment a, pendant près d'un siècle, après sa mort, enfin, un peu moins d'un siècle, a été très, 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 très peu joué et très, très méconnu du grand public. Mais par contre, ce que l'on peut dire, c'est que au XIXe siècle, l'œuvre mozartienne, elle est infiniment réduite par rapport à ce que nous en connaissons aujourd'hui. C'est sans doute Don Juan, c'est peut-être, oui, je pense La Flûte enchantée.
Et c'est plus les opéras.
Et puis après, je suis pas un spécialiste de la redécouverte de Mozart au XIXe, mais je pense qu'une bonne partie de son œuvre n'était plus vraiment au goût du jour. Alors oui, il y a quand même de grands compositeurs. Il y a Tchaïkovski qui revient chez Mozart. Donc c'est vrai dans une certaine mesure que c'est peut-être le premier compositeur dans l'histoire de la musique qui ne disparaît pas. Monteverdi va disparaître pendant des siècles. Bach pendant une centaine d'années. Vous avez raison quelque part que Mozart n'a pas disparu.
Alors également autour de cette table, Yvan Alexandre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur, metteur en scène, librettiste, journaliste, un vrai critique, vous aussi, à n'en pas douter. Et vous travaillez sur un projet, alors c'est un projet au long cours, hein, c'est pas pour demain, mais sur une mise en scène des opéras da Ponte de Mozart. Est-ce que vous êtes déjà imprégné comme ça de ces opéras?
Je suis imprégné depuis bien plus longtemps que ça, mais c'est encore un peu secret, c'est un peu l'avenir.
Non, mais vous travaillez pour vous, dans votre chambre.
Ah, je travaille chez moi, absolument, sur les trois opéras da Ponte. En fait, Mozart a beaucoup de périodes. Il a écrit une vingtaine d'œuvres lyriques, on peut dire, qui ne sont pas toutes complètement des opéras. Mais ce qui est repéré, effectivement, aujourd'hui, c'est curieux parce que ça paraît presque évident quand on parle de la trilogie da Ponte. Mais Bernard a parfaitement raison. Pendant très longtemps, Così fan tutte était vraiment un objet dont tout le monde connaissait Don Giovanni. Et personne n'osait toucher à Così fan tutte, d'abord à cause de son sujet. Et puis à cause de l'incompréhension qu'on avait du rythme dramatique de cette pièce, alors que Les Noces et Don Juan paraissaient évidents à tout le monde. Et aujourd'hui, ça a quand même beaucoup changé, il faut reconnaître. Et d'ailleurs, Bernard a raison, vous vous dites Mozart n'a pas vraiment disparu, c'est parfaitement vrai. Ses symphonies, Wagner dirigeait ses symphonies, Haydn et Mozart sont les premiers compositeurs qu'on connaissait, qu'on étudiait de manière systématique au XIXe siècle. Mais un certain nombre de pièces n'étaient pas connues et Aix-en-Provence a joué un rôle énorme dans la redécouverte de Così fan tutte, par exemple, qui n'était pas du tout au répertoire de l'Opéra de Paris.
Alors Aix-en-Provence, mais l'autre grand festival mozartien, c'est évidemment le festival de Salzbourg. Salzbourg, la ville dans laquelle est né, dernier de 7 enfants, dont 2 seulement survivront, celui qui allait devenir le personnage le plus célèbre de la musique classique. Nous sommes allés voir chez lui à Paris le philosophe et spécialiste de musique André Tuboeuf, qui va nous accompagner tout au long de cette émission en évoquant quelques aspects de la vie du compositeur à qui il a consacré un ouvrage paru chez Actes Sud en 1995. Et c'est justement sur la ville de Salzbourg et sur la manière dont elle a pu influencer Mozart que porte sa première intervention.
Salzbourg, c'est tout de même, il y a la notion de carrefour, si vous voulez, de passage obligé, donc de mélange d'influences. Au fond, toute une Europe des passages et de la civilisation qui, en un sens, peut se former précisément là. Quelque chose comme un point de rencontre obligé. Là, ce n'est pas le passage obligé, c'est la rencontre obligée. Les influences se font sentir en même temps. Les influences du climat, les influences du soleil, les influences de la forêt, de la montagne. Et puis, ça a été très vite une ville dans laquelle, comment pourrais-je dire, le pouvoir religieux et l'esprit religieux, en même temps, se sont exprimés sous la forme de l'architecture. Salzbourg est une ville architecturalement magnifique, elle l'était déjà du temps de Mozart.
Et alors ce n'est pas une ville comme les autres, puisque c'est une principauté ecclésiastique. Quelle importance ça aussi ?
L'autre heureux hasard, si vous voulez, c'est que le fait que ce soit une principauté ecclésiastique fait qu'on va y donner dans un premier temps beaucoup de messes, beaucoup d'oratorio, et que le prince archevêque, bon d'abord le prince archevêque, il va pouvoir avoir une capelle, et Mozart père va pouvoir y être employé extrêmement bien, n'est-ce pas, et assurer de sa subsistance. Mais pour aller un petit peu plus avant, si vous voulez, dans l'histoire, il y a cette chose très importante dans le développement même de Mozart, c'est que, bien entendu, le service des archevêques l'a obligé à quelque chose de monumental, d'architecturé, de grand, sans tenir à une espèce de musique sirène qui est simplement celui de la petite musique instrumentale et d'une petite cassation qu'on pourrait offrir comme ça sur le parvis d'une église ou d'une brasserie.
Donc une musique inspirée par Dieu.
Je ne dirais pas ça, je ne dirais pas inspirée par Dieu, mais obligée par l'église à quelque chose qui a son décorum et qui a ses formes.
Alors Bernard Faucroul, une réaction sur ce premier élément, Salzbourg, au service des archevêques, une musique monumentale.
Oui, moi, peut-être que ce que je dirais pour ma part, c'est que ce qui caractérise peut-être le... Là, il y a une continuité entre l'époque de Mozart et notre époque, c'est que dans ces pays germaniques, l'Autriche et l'Allemagne en particulier, il y a une conception de la musique dans la vie quotidienne, une sorte d'évidence de pratiquer la musique en famille, entre amis, qui n'est pas du tout commune au monde latin. Et je pense que Mozart doit se comprendre en partie dans ce contexte-là. Et ce qui est assez mouvant, c'est de voir que même si la société a beaucoup évolué en 2 siècles, il y a encore quelque chose de ça aujourd'hui dans ces pays germaniques où le fait de faire de la musique, et notamment de la faire ensemble, le fait de faire de la musique de chambre, le fait de chanter en chœur, le fait de jouer en amateur dans un orchestre, sont des choses qui sont absolument naturelles dans toutes les villes, même les plus petites. Et que il y a donc une sorte de terreau culturel qui est très 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 marqué. Et alors c'est vrai que Salzbourg, c'est une ville de passage, c'est une ville qui est proche du monde de l'Italie, de la culture italienne. Et je pense qu'on peut voir, on peut imaginer à Salzbourg comment Mozart très vite a pu passer au niveau européen. C'est-à-dire on voit bien chez Bach, par exemple, que Bach est un compositeur totalement allemand dans son background, et qu'ensuite, par étapes successives, il va intégrer la musique française, la musique italienne, Vivaldi, la musique du Sud, la musique du Nord. Et on voit ça. Chez Mozart, j'ai l'impression que les choses se font de manière absolument organique, naturellement, que chaque voyage est une occasion d'une appropriation naturelle quand il va en Italie, quand il va à Bologne, quand il vient à Paris, etc. Mais sans que le style musical ne se transforme parce qu'il y a une sorte d'évidence que ce qui l'entoure, eh bien, il l'intègre immédiatement.
Yvan Alexandre, un compositeur allemand, autrichien, très autrichien.
Non, très allemand. Lui, en fait,
c'est très différent.
Oui, c'est-à-dire que les Salzbourgeois ont toujours eu ce chic, mais ils l'ont encore aujourd'hui, de regarder de très haut les Bavarois, qui sont quand même leurs voisins à 50 mètres. Hein. Salzbourg est beaucoup plus proche de Munich que de Vienne. Donc ils regardent les Bavarois comme des attention, si vous nous touchez, on va chercher les Viennois. Et réciproquement, se fichant complètement du pouvoir viennois, étant un pouvoir très autonome, ça a un côté principauté. Et en plus, l'archevêque, mais pas seulement Colloredo, le fameux archevêque qui était en conflit, soi-disant, avec Mozart, mais celui d'avant, ce sont des gens qui ont énormément de pouvoir. C'est d'ailleurs un point commun avec Aix-en-Provence, c'est que c'est quand même une ville d'archevêques, curieusement. C'est là où, en fait, Mozart, c'est assez curieux. Mais Salzbourg, encore aujourd'hui, et même plus que jamais aujourd'hui, c'est devenu un commerce mozartien. Lui-même se sentait en prison, il tapait sur les barreaux, et dès qu'il est arrivé à Vienne, il passe sa vie à écrire à son père, mais qu'est-ce qu'on est bien, mais je dois rester ici, mais c'est impératif. Et aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Alors évidemment, Vienne reste une grande capitale de la culture, et particulièrement de la musique, mais Salzbourg, je pense qu'il n'existe aucune ville au monde comme Salzbourg, il faut aller voir. Pour le croire, Salzbourg est pratiquement à la musique ce que Hollywood est au cinéma. C'est-à-dire qu'on ne parle que de ça, on ne pense que ça. C'est une espèce de gros village dans lequel vous avez 5 salles d'opéra, quand même. C'est totalement inimaginable. Et dont des très grandes construites par Karajan à des échelles que même New York ou Paris ne pourraient pas concevoir.
Et la musique, on n'en a pas encore entendu pour l'instant.
Thank you.
Alors, je sais qu'il ne faut pas faire ce genre de choses, mais je vais quand même vous demander si vous reconnaissez le compositeur de ce morceau. Dans le cadre de notre thématique, c'est assez facile.
Alors, moi j'ai ce don tout à fait particulier de reconnaître immédiatement une musique et de ne pas pouvoir mettre le nom dessus. Je suis sûr qu'il vend, par contre.
Non, ça m'évoque la chasse, mais...
Ah, très bien. Alors ça, bravo, c'est la symphonie de chasse de Léopold Mozart,
le père
de Mozart. Quel genre de musicien était-il, Monsieur Mozart père?
C'est un très bon violoniste. Du fait de la renommée de son fils, on a peut-être un peu oublié que le père a écrit l'un des meilleurs traités de violon de son temps. Très précieux aujourd'hui pour tous les violonistes qui travaillent la musique baroque et la musique classique. Il a certainement joué un rôle important dans l'éducation musicale de son fiston. Et puis, il a dû jouer un rôle un peu plus compliqué dans la maturation de son talent et de son génie. Mais c'est certainement quelqu'un qui était très important pour Mozart.
Vous dites un rôle important, mais est-ce qu'on ne peut pas aller même plus loin que ça? Ou en tout cas, c'est peut-être comme ça qu'on a représenté ensuite le père de Mozart à travers aussi le fameux film de Forman, etc. Mais comme une personnalité ayant une emprise très très grande sur ses enfants, Nannerl et Wolfgang.
Oui, mais le film de Forman, c'est un film de fiction. Mais il faut lire les lettres. Hein. Je veux dire, les lettres nous sont préservées. Les lettres de Léopold Mozart à son fils
sont
extraordinaires d'autoritarisme et à certains égards de mélange de protection, d'incompréhension. On sent que le fils a dû se battre quelque part contre à la fois l'image du père, mais surtout contre les contraintes imposées par le père qui n'osait pas le laisser partir, etc. Donc ça a dû être très compliqué.
Yvan Alexandre.
Oui, on connaît, il n'y a pas que le film. Hein. On n'avait pas attendu Miloš Forman, ni même... En fait, on parle toujours de ce film. Enfin,
il a popularisé quand même extrêmement
oui, bien sûr, mais,
la vie de Mozart.
On oublie quand même que le film est à peine un film. Miloš Forman a juste prêté sa caméra, c'est presque un chef opérateur, à une pièce de théâtre très connue de Peter Schaeffer qui a fait le tour du monde, qui est encore montée partout. Et la pièce Amadeus, la pièce de Peter Schaeffer, est adaptée, qui en fait ne devrait pas s'appeler Amadeus, qui devrait s'appeler Salieri, puisque le personnage principal du film, c'est évidemment Salieri, Mozart et son père étant un peu marginaux. Et d'ailleurs, je trouve que le personnage de Léopold mériterait alors un film parce que c'est une personnalité très complexe. On a vraiment le sentiment, et c'est très curieux, on a le sentiment d'un mammifère qui vient de trouver un diamant dans sa couche et qui ne sait pas quoi faire. Il est tout à fait conscient du trésor incroyable. L'admiration de Léopold pour son fils est sans borne. Il répète le mot génie ou le mot talent pratiquement 15 fois par lettre et il le vend pratiquement dès l'âge de 6 ans comme tel. Mais ça le dépasse, il essaye de le contrôler, mais il le respecte aussi énormément. On a l'impression vraiment, comme Joseph avec Jésus-Christ, que quelque chose de sacré lui a été donné, dont il est responsable. Ça le rend à moitié fou. C'est-à-dire qu'on sent, par exemple, dans les conflits avec les autres compositeurs, et notamment avec Gluck, par exemple, les crises, on dirait aujourd'hui, de paranoïa de Léopold, qui imagine des complots. Et pendant toute sa vie, Wolfgang va être entouré de complots qui sont pour la moitié de ce qu'on en sait inventé ou en tout cas théorisé par son père.
C'est la figure de l'enfant star qu'on va retrouver jusqu'au XXe siècle. Je ne sais pas si je peux oser aller jusqu'au Jackson 5, mais enfin, il y a presque cette idée du père, effectivement, gourou, qui cherche à faire des qualités de son fils qui sont, il est vrai, exceptionnelles. Alors, oreille absolue, mémoire et eidétique. À 14 ans, il compose son premier opéra. Il retranscrit parfaitement le Miserere d'Allegri après une seule audition. C'est une légende.
Oui, il faut dire que quand il a composé, je suis petit, 14 ans, à 14 ans, il compose Mithridate. Ce n'est pas vraiment son premier opéra, c'est son premier grand opéra. Oui. Mais alors, le compte, c'est que c'est écrit pour Milan, c'est-à-dire pour les plus grandes stars d'Europe. Et c'est drôle parce qu'il y a une lettre. L'opéra Mithridate est créé fin 1770 et on a une lettre de Léopold qui date de quelque chose comme un mois avant qui parle de la mue de son fils et que c'est terrible, il vient de perdre sa voix de soprano. Donc vous imaginez quelqu'un qui est en train d'écrire pour une des plus grandes troupes du monde, un opéra absolument fantastique qu'on joue aujourd'hui dans tous les plus grands films, qui vient de perdre sa voix de soprano. C'est quand même très très étonnant.
Alors Léopold Mozart part sur les routes avec ses enfants, il est rapidement reçu par les souverains des plus grandes nations et notamment il arrive à la cour de Versailles. André Tubeuf.
C'est la première entreprise de promotion d'un jeune musicien qui ait été réalisée dans le monde. Enfin, il faut vraiment que le génie de Mozart enfant, il avait 5 ans simplement, ait été assez éclatant, enfin, soit devenu suffisamment une fable. Fable qui s'est propagée en Autriche d'abord, lorsqu'il est allé à Vienne, et d'Autriche, très rapidement, les autres cours. Mais l'exportation de quelqu'un d'aussi prodigieusement musicien et inventif en musique, et qui n'est pas simplement comme un petit singe savant qui fait ce qu'on lui dit de faire, et une chose très difficile, dire les accords sur un piano, etc., mais qui en plus parle avec grâce.
Est à l'aise, sa personne autant que sa musique qui plaît.
Est à l'aise dans le monde, n'est pas impressionné par le fait qu'il rencontre des archiduchesses et que les archiduchesses le fassent sauter sur leurs genoux, que rien en vérité ne l'impressionne. Et c'est ça, cette sorte d'enfant d'une espèce divine qui d'une certaine manière est sans vanité et sans complexe non plus. Sans vanité, bien entendu, il est content quand on lui donne un petit habit d'archiduc, lila, et qu'il s'aperçoit que ça lui va très bien, que ça le rend encore plus joli qu'il n'est naturellement. Mais il parle bien, il est à l'aise, il est au sens propre et complet du terme, il est aimable.
Léopold Mozart. Je vous aurais sans faute à nouveau écrit depuis ma lettre de Versailles, et si je n'avais sans cesse hésité en attendant l'issue de notre affaire à Versailles pour pouvoir vous la relater. Mais comme tout ici, plus encore qu'aux autres cours, va d'un pas de tortue, et qu'en particulier l'affaire doit être réglée par le menu des plaisirs, il faut s'armer de patience. Si la reconnaissance qu'on nous témoignera est à la mesure du plaisir que mes enfants ont donné à la cour, elle devra être grande. Il faut noter qu'ici, l'usage n'est nullement de baiser la main des personnes royales, ni non plus au passage, comme ils disent, à savoir quand elles se rendent à l'église par la galerie et les appartements royaux, de les importuner en leur remettant une requête et moins encore en la formulant oralement. De même, il n'est pas non plus d'usage ici, ni devant le roi ni devant quelqu'un de la famille royale, de marquer sa déférence en inclinant la tête ou en pliant le genou. On demeure droit, sans le moindre mouvement. Et dans cette position, on a toute la liberté de voir passer tout près de soi le roi et sa famille. Vous pourrez donc aisément imaginer quelle impression cela ne manqua pas de faire sur ces Français, si entichés de leur usage de cour, lorsque les filles du roi, non seulement dans leurs appartements, mais dans le passage public, en apercevant mes enfants, se sont arrêtées et approchées, se laissant non seulement baiser les mains, mais embrassant les enfants et se laissant par eux embrasser sans fin.
Ivan Alexandre, vous parliez des lettres. Là, c'est un premier exemple d'une lettre de Léopold qui nous permet de connaître très bien la vie de Mozart. C'est très documenté, notamment cette enfance. Alors, quelle est la couleur de ces années-là ?
Oh, il voyage tout le temps parce que c'est assez curieux. Les enfants, il faut pas oublier, l'enfant prodige à cette époque-là, évidemment, c'est assez rare, mais ce n'est pas unique. On connaît des jeunes violonistes, nous avons en France un des plus grands maîtres de la viole de gambe, Antoine Forqueray, qui était présenté à 7 ans comme un virtuose absolu qui jouait des choses insensées. Ça, ce côté-là, le côté jeune virtuose, n'est pas si exceptionnel.
Alors, qu'est-ce qui fait la différence, oui.
La différence, c'est d'abord que son père le promène à travers toutes les cours d'Europe, en effet, comme un animal de cirque. C'est-à-dire que c'est très ambigu. Il y a ce côté Geppetto qui a donné vie à son pantin et qui est admiratif de ce don de Dieu qu'il le répète sans arrêt. Il s'appelle Amadeus, peut-être pas pour rien, et cette admiration est réelle et jusqu'au bout. Mais en même temps, il y a un côté promeneur de monstres dans les foires. Et au lieu d'être dans les foires, c'est dans les cours. Mais il y a quelque chose de caché petit à petit. Quand il est très enfant, c'est juste comme ça pour épater la galerie, et ça marche très bien. Mais petit à petit, ça va être aussi pour que le monde entier reconnaisse. Lui, il a vu ce génie-là, et tout le monde doit le reconnaître. Et il devient de plus en plus ennuyé, que vous ne comprenez pas le prix de ce que je vous montre. Et petit à petit, il rêve d'un poste de Kapellmeister à Vienne, à Paris, n'importe où. Et il commence à devenir très, très, très irrité que tout le monde ne comprenne pas ce que lui a compris.
D'autant plus que son fils est également un compositeur. Je vous propose d'écouter, alors je crois que c'est la première composition de Mozart, c'est le Menuet K2. Il a 5 ans quand il compose ça, Bernard Faucroul.
Alors, la première chose, c'est que c'est très difficile de savoir dans quelle mesure cette œuvre est intégralement de la main du petit Mozart ou dans quelle mesure il a été un petit peu aidé, accompagné par son père. En tout cas, c'est prodigieux. Hein, je veux dire, on se rend compte que... puis il va y en avoir beaucoup des œuvres du très jeune Mozart, donc très, 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 très précoce. Après, il me semble que peut-être que, pour suivre ce que Yvan Alexandre disait il y a un instant... que peut-être que le drame là derrière qu'on va pouvoir sentir émerger, c'est que ce qui fait le succès de Mozart de son temps comme enfant prodige ou comme virtuose, comme compositeur fêté, n'est pas forcément son génie. C'est un talent absolument hors du commun, hein, qui séduit les foules, qui séduit les princes et les princesses, mais qui n'est pas ce qui aujourd'hui nous touche.
C'est-à-dire la musique.
C'est-à-dire non seulement la musique, mais c'est un ensemble de choses qui sont extrêmement mystérieuses et même impossibles à expliquer, si vous voulez. Ces jours-ci, moi, je me suis replongé beaucoup dans la flûte enchantée, forcément, que je connais vraiment bien, mais à chaque fois, je me dis comment est-ce qu'avec des matériaux musicaux aussi simples, quelque part, comment peut-il faire une musique aussi complexe.
C'est un mystère pour vous, la flûte enchantée, encore ?
Oui, c'est un mystère parce que le simple, le très simple et le très complexe n'arrêtent pas de jouer, de se renvoyer de l'un à l'autre. Et du coup, là-dedans, il y a une sorte d'ouverture à la fois métaphysique, une mise en abîme de l'être humain qui est absolument phénoménale. Et ça, je pense que les contemporains n'en ont pas eu l'idée. Peut-être que le papa l'a eu. J'en suis pas sûr, moi. Mais en tout cas, probablement que Mozart, il a dû sentir ça quelque part. Et je pense que là, il y a quand même un côté un peu dramatique, c'est-à-dire d'une expérience qui ne peut pas être partagée. Elle l'est certes par l'écriture artistique, mais la manière de le comprendre. Et nous voyons bien aujourd'hui que 200 ans plus tard, eh bien, chaque nouvelle relecture importante d'une œuvre nous amène à la redécouvrir. Sans oublier tout ce qui s'est passé, tout ce qui nous relie aux générations précédentes. Et ça, je crois que très peu de gens à son époque ont pu vraiment appréhender cet aspect-là.
Yvan Alexandre.
Oui, mais ça c'est vraiment... Je pense que c'est ce que Bernard dit, exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a une lettre dans laquelle Léopold dit, qui résume ce que tout le monde peut penser aujourd'hui, mon fils compose à 14 ans ce que les autres composent à 70 ans. C'est-à-dire qu'il y a cette précocité, cette maturité instantanée qui fait qu'on va très loin, on est obligé. C'est vraiment comme aussi qu'on l'enferme dans une pièce pour être sûr que c'est bien lui qui compose justement et pas son père, etc. Il compose à 12 ans, on a des messes, parmi les premières messes. On connaît la grande messe en ut mineur, évidemment, mais il a écrit une autre messe en ut mineur quand il avait 12-13 ans, qui fait trois quarts d'heure et qui est déjà inimaginable. C'était un prodige de composition, c'est vraiment fantastique. Mais ça aurait pu s'arrêter là, en fait. C'est-à-dire que ce qui est curieux, c'est que ce qu'on admirait à cette époque-là, c'était quelqu'un de tellement doué. Mais au moment où il devient vraiment Mozart, c'est-à-dire qu'il ne faut pas minimiser, par exemple, le talent de quelqu'un comme Salieri. Salieri est un très, très, très bon compositeur, un excellent compositeur. Il a écrit des très, très belles œuvres.
Très reconnu, d'ailleurs, quand même.
Très reconnu, mais beaucoup plus reconnu que lui. Mais justement, malgré ça, au moment où il écrit Les Noces de Figaro, on trouve que Salieri, c'est quand même mieux. Alors qu'aujourd'hui, vous écoutez juste les 50 secondes de l'air de Barberine et vous comprenez que personne au monde est capable, autre que lui, à cette époque-là, de composer ça. Et Et c'est tout à fait vrai qu'au moment où vraiment ça devient du vrai génie, mais plus du génie étonnant, juste du génie pur, alors là, le public, en général, commence à décrocher et n'est plus aussi sensible que lui-même, d'ailleurs. Parce que lui, il sait qu'il est parfaitement habité par ce talent supérieur.
Vous direz que c'est de l'avant-garde
Non, pas du tout. Alors, il était plutôt...
Ben c'est ça, c'est quand même extrêmement non, ça veut rien classique. Dire. Mais alors, le public de l'époque décroche pour quelle raison?
Parce que la musique, parce que ce qu'il y a de propre, mais c'est tout le temps comme ça hein, dans l'histoire de l'art, autant qu'on se souvienne. Enfin, pas tout le temps, mais très souvent. C'est faut reconnaître que la plupart, le Barbier de Séville est tombé à la première, la Traviata aussi, Péléas aussi. C'est quand même extrêmement fréquent. C'est ce côté-là, il y a toujours à certaines époques des officiels et des génies, on n'est pas toujours sûr. Berlioz, il pensait que pendant 3000 ans, on jouerait les opéras de Meyerbeer sans discontinuer parce que c'était ça qui était le plus beau sur Terre. Et puis, ça s'est arrêté. On ne peut pas prévoir qu'est-ce qui va rester, d'où... C'est l'histoire, comme des montagnes qui, par sédimentation, finit par faire apparaître des gemmes. Voilà, un diamant, ça ne se fait pas en 3 jours. Et Mozart, d'une certaine manière, ne s'est pas fait en 3 jours, bien que ça se fait pendant tout le 19e. On l'a vu. Mais ce génie... n'est pas forcément accessible à tout le monde. Il y a d'autres arts peut-être plus joyeux, plus directs que le sien.
Alors, on vient d'entendre une composition de Mozart à 5 ans, avançons dans le temps, à 19 ans. Voilà un exemple de concerto déjà bien achevé, c'est le concerto Jeune homme. Alors là, on est déjà dans une forme qui est quand même très, très achevée. C'est déjà Mozart, c'est la période salzbourgeoise, le cœur de la période salzbourgeoise. Est-ce qu'il y a une couleur particulière? Ce n'est évidemment pas encore le Mozart qui va vraiment nous éblouir, qui n'arrivera que quelques années après, mais quand même, à 19 ans, voilà ce que produit Wolfgang Bernard Focroul.
Oui, je voudrais faire le lien avec votre question précédente sur la question de l'avant-garde. Ce qui est la grande différence entre cette époque de Mozart et notre époque ou la fin du XXe siècle, c'est que les plus grands compositeurs utilisent le même langage que les compositeurs médiocres. C'est-à-dire que c'est un langage commun et qu'on peut, par une écoute inattentive, confondre peut-être les uns et les autres parce qu'ils parlent la même langue.
Il n'y a pas d'idée de l'innovation, c'est pas.
Elle n'est pas, en tout cas, posée en termes de renouvellement du langage. Si on regarde le travail mozartien, son évolution, bien sûr qu'il y a une innovation et même des formes d'expérimentation qui sont là, mais il n'a pas, comme aujourd'hui, comme dans ces 50 dernières années, la tâche d'inventer un nouveau langage au moment même de l'écriture d'une œuvre, si vous voulez. Et du coup, voilà, on peut, après, il faudrait, pour répondre à votre question sur ce langage musical, il faudrait vraiment rentrer dans des détails d'analyse qui seront assez techniques et voir ce qui est vraiment du domaine du langage commun de son temps et ce qui est en train d'émerger dans une musique déjà très aboutie comme celle-ci, hein, absolument magnifique, et qui fait la marque mozartienne et cette grâce et aussi cette sorte de profondeur qui est là, qui est... moi, je peux dire juste un mot personnel par rapport à ça. C'est que pendant longtemps, enfin, quand j'étais jeune et même adolescent, je n'ai compris de Mozart que la partie la plus superficielle. Et y avait une partie qui m'a complètement échappé. Il m'a fallu du temps pour trouver la dimension dramatique ou la dimension expressive de sa musique.
Y compris la danse qu'on vient d'entendre.
Alors peut-être que ce n'est pas l'œuvre la plus caractéristique.
Parce que dans un Requiem, il y a effectivement cette expressivité très clairement, mais peut-être aussi ailleurs.
Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la musique baroque. Parce que pendant très longtemps, on a écouté Mozart à travers le prisme du 19e siècle. Et que, évidemment, Mozart, vu à travers Beethoven et toutes les générations qui ont suivi, ça paraissait toujours de la musique un peu plus légère, un petit peu plus galante. On l'appelait ça souvent la musique galante, d'ailleurs. Alors que si on le voit à partir des générations qui l'ont précédée, c'est une musique qui est absolument étourdissante d'expressivité et de grâce et d'élégance.
Et de diversité également, puisque des œuvres profanes, des œuvres religieuses, à peu près tous les types de musique ont été composées par Mozart, Yvan Alexandre.
Tout. Ça fait partie des compositeurs, et ce n'est pas les plus nombreux, hein, parmi les plus grands compositeurs de connus. Là, nous avons Rossini qui a composé quelques œuvres sacrées, mais qui a composé que de l'opéra. Dans le domaine de l'opéra, par exemple, l'immense majorité des compositeurs d'opéra sont ce qu'on appellerait des spécialistes. Verdi, Wagner, Gounod, Massenet, et composé, c'est que cela. Et puis, il y a des généralistes qui touchent à tout, et qui, comme Debussy ou Handel, et Mozart est certainement alors, au centre de ça. Il y a peu de compositeurs, si on prend tranche par tranche, depuis le piano tout seul pour soi, jusque la musique sacrée, naturellement, il y a des chefs-d'œuvre presque indépassable, et d'ailleurs considéré comme indépassable. Le Requiem et la Messe en Ut, ça pendant tout le 19e siècle, sont des œuvres sur lesquelles tous les compositeurs butent comme une espèce de... Et pas seulement pour leur modernité, justement, leur avant-gardisme, tout à fait le contraire, puisque ces dernières œuvres sacrées, comme la Messe en Ut et le Requiem, sont au contraire le fruit de la découverte de Bach et de Handel. C'est au moment où il est fécondé par... Il connaissait quelques œuvres de Bach et de Handel antérieurement, mais tout d'un coup, le baron von Swieten, à Vienne, quand il arrive à Vienne, lui fait découvrir, et même plus que découvrir, lui fait réorchestrer et arranger les œuvres de Bach et de Handel, et confronté à ça, il est pris d'une passion totale pour le contrepoint écrit, qu'on lui envoie toutes les fugues de Haydn tout de suite, et il se plonge dans le contrepoint à une époque, alors là, plutôt réactionnaire d'une certaine manière que avant-gardiste, à une époque où c'est pas du tout vers ce domaine-là qu'on se dirige. Et lui-même, comme personne, de toute façon, ne se vit pas du tout comme avant-gardiste, et certainement pas comme une lumière, par exemple. N'oubliez pas quand même que quand Voltaire meurt, il saute pratiquement de joie sur sa tombe. Il le traite de chien. Parce
il n'a pas compris de toute façon tout ce qui se passait en France à ce moment-là.
Mais pas seulement en France, mais son père non plus. Il était chrétien, sincèrement. Il pensait que tous ces athées des Lumières...
On en reparlera peut-être voilà. Si on a le temps.
Et alors que justement, son soi-disant ennemi réactionnaire, l'archevêque Colloredo, avait le portrait de Beaumarchais dans son bureau et était lui beaucoup plus proche de l'esprit d'un Voltaire. Donc il n'a rien ni personnellement, ni artistiquement. Il n'a pas inventé la symphonie. C'est j'étais ami, ce qu'il n'a pas compris. L'inventeur n'est pas toujours l'artiste. Ça se recoupe de temps en temps dans le cas de Monteverdi, dans le cas de Wagner, mais c'est quand même pas la règle.
Mais est-ce que vous avez le sentiment que, au fond, il est quand même plus lui-même, plus original dans les œuvres sacrées, et que ça correspond plus à une intériorité, et que, au fond, il y aurait d'autres œuvres qui seraient plus sociales, qu'il écrirait aussi pour des commandes, etc. Est-ce que vous ressentez, voilà, dans la musique sacrée quelque chose de particulier?
Alors, je ne pense pas. Moi, je trouve que la musique sacrée de Mozart est absolument sublimissime, mais je trouve que les opéras, dans une certaine mesure, vont encore beaucoup plus loin dans ce que vous appelez la profondeur. Je vais vous donner quelques exemples. Prenons le personnage de la Reine de la Nuit, qui est sans doute dont les deux airs sont parmi les choses les plus populaires au monde aujourd'hui. Tout le monde connaît, sans savoir forcément d'où ça vient. Voilà. Eh bien... on peut les entendre de manière comme ça, légère, superficielle, virtuose. Et on le voit, et par exemple, le travail que Mac Burney et Ras Casado ont fait dans cette production qui est pour l'instant AIX, de nous révéler, de nous faire entendre, simplement de nous faire entendre cette musique dans une force dramatique qui n'a plus rien de décoratif. Et c'est ça qui est, à mon avis, extraordinaire, c'est qu'il arrive par des moyens purement musicaux à une profondeur théâtrale, à une subtilité de la mise en œuvre là, de ce qui fait l'humanité, les rapports entre personnes, et en particulier les femmes. Enfin, les femmes traitées par Mozart, c'est absolument extraordinaire.
C'est pas très progressiste quand même, la flûte enchantée. Trouvez-vous que les femmes
Écoutez, le texte de Schikaneder est vieux jeu, et je pense qu'il porte la trace de son époque. Mais la musique de Mozart ne l'est pas. Et par exemple, la manière dont il met en scène les femmes, hein, même dans Cosi d'ailleurs, qu'on dit souvent être un opéra misogyne, ce que personnellement je ne pense n'avance pas. Mais regardez La Flûte enchantée, le personnage de Pamina, c'est la lumière qui traverse tout l'opéra. Le personnage de la mère, la reine de la nuit, c'est le personnage le plus dramatique, beaucoup plus intéressant que Zarathustra, mille fois plus intéressant. Les trois dames, ce sont trois figures d'une féminité qui est absolument magnifique, naïve et d'une grande sensualité. Et puis, il y a Papagena. Et on peut décliner ainsi les opéras, quelques-uns des grands opéras de Mozart, et on va voir une description de la femme qui est bien plus prospective, hein, que ce que l'on va trouver dans la littérature de l'époque.
Alors revenons un petit peu à la biographie. Les années à Salzbourg s'achèvent. Il y a donc cette fameuse mésentente entre Colloredo et Mozart. Et Mozart, alors effronté, quitte Salzbourg pour Paris. Et je vous propose d'écouter un enregistrement fait avec Patrick Taïeb de l'Université de Montpellier III. Il est musicologue et il a coordonné avec Jean Gribinski un ouvrage paru cette année aux éditions Symétrie intitulé « Mozart et la France ». Et il nous parle donc de son second passage à Paris, car il y était allé, on en a parlé, quand il était enfant. Et là, nous sommes en 1778, un passage qui a été pour lui un semi-échec. Patrick Taïeb.
Le Paris du début du règne de Louis XVI, hein, on est en 1778, est totalement différent du Paris que Léopold, le père, se représentait d'après le voyage des années 1764-1766. En 1778, les choses ont changé. D'abord, Paris est beaucoup plus importante que Versailles pour le goût musical. Et puis, en réalité, il s'est développé à Paris une vie musicale assez indépendante, en fait, des cadres de la monarchie et de l'Ancien Régime. Une vie musicale très riche pour le commerce de la musique, les concerts, les leçons privées. Et Paris est une capitale extrêmement attractive pour tous les musiciens étrangers. Le bilan du séjour de Mozart à Paris, finalement, quand on le compare à d'autres étrangers inconnus, parce que Mozart était quand même un étranger inconnu, ça n'était pas le Mozart que nous connaissons, et d'ailleurs à juste titre. Les très grands chefs-d'œuvre de Mozart commencent à ce moment-là et personne ne peut prédire qu'il y aura les très très grands chefs-d'œuvre de la période viennoise entre 1780 et 1791. Donc il est un musicien étranger surdoué sans doute, mais un musicien étranger parmi des dizaines et des centaines d'autres qui sont attirés par la vie musicale parisienne. Beaucoup ont trouvé leur place parce qu'ils n'arrivaient pas avec, je dirais, l'injonction paternelle de parvenir selon les chemins un peu dépassés par rapport à la vie parisienne, c'est-à-dire de s'introduire dans l'aristocratie, de trouver un poste dans les cadres de la vie culturelle monarchique. Mozart arrive avec des désirs qui sont ceux de son père, en retard par rapport à l'organisation de la saison. Et alors, ça n'empêche pas que le bilan artistique est assez saisissant. Hein. Il y a quelques grands chefs-d'œuvre qui sont écrits et publiés à Paris. Tous les pianistes connaissent la sonate en la mineure, exceptionnelle, un des premiers grands chefs-d'œuvre du piano de Mozart. La sonate pour piano et violon en mi mineur, qui est si troublante. Voilà, je ne vais pas faire une énumération. Le bilan artistique n'est vraiment pas mauvais. Mozart, finalement, se voit proposer un poste tout à fait honorable d'organiste à Versailles. On peut en sourire maintenant, mais ça n'a pas été proposé à tout le monde. Et puis, bon, il y a le drame terrible, c'est-à-dire que quand même son père lui donne une permission sous condition, c'est-à-dire il pourra se rendre à Paris. Bon, la permission arrive tardivement et en plus, il ne peut le faire qu'accompagné de sa mère. Et le désastre, c'est que sa mère meurt à Paris. Donc, le sentiment d'échec ou l'idée de l'échec est expliqué par des événements qui n'ont rien à voir avec l'accueil parisien. Il y a un drame personnel monstrueux, celui peut-être d'abord de perdre sa mère, mais peut-être d'en ressentir une certaine culpabilité puisqu'il a insisté pour partir à Paris et que la condition qui lui a été faite a été la source d'un malheur effroyable.
Paris, ce 3 de juillet 1778. Monsieur mon très cher père, j'ai à vous donner une très désagréable et triste nouvelle, qui est aussi la cause qu'à votre dernière lettre datée du 11, je n'ai pu répondre plus tôt. Ma chère mère est très malade. Elle s'est fait saigner comme à son habitude et c'était très nécessaire. Elle s'en trouva d'ailleurs fort bien d'abord, mais quelques jours plus tard, elle se plaignit de frissons, de froid et aussitôt de chaleur. Mais comme cela ne faisait qu'empirer, elle avait du mal à parler, elle perdait l'ouïe de sorte qu'il fallait crier. Le baron Grimm nous a dépêché son docteur. Elle est très faible, a encore des suées et elle délire. On me donne espoir, mais je n'en ai pas beaucoup. Je suis déjà depuis de longs jours et nuits entre crainte et espérance. Mais je me suis entièrement remis à la volonté de Dieu. Et j'espère que vous et ma chère sœur ferez de même. Car quel moyen y a-t-il sinon pour être calme?
Donc ce deuxième passage à Paris, Ivan Alexandre, marqué par la mort de sa mère, qui sera extrêmement difficile à vivre pour lui. On dit que Paris n'a pas compris Mozart, mais c'est Mozart visiblement qui n'a pas compris Paris.
Oui, ça arrive très souvent, cette incompréhension. À première vue, l'histoire principale est celle de ce directeur du concert spirituel, lequel concert spirituel, nous ne l'oublions pas, est une des premières, sinon la première vraie institution symphonique moderne qui date du début du XVIIIe et qui alors était florissante à cette époque-là. C'était un centre pour l'orchestre, pour la notion d'orchestre, la qualité des orchestres. Paris était à cette époque extrêmement renommé, à la fois au concert spirituel et à l'opéra. L'orchestre de l'opéra était considéré comme un des grands opéras d'Europe, comme un des grands orchestres d'Europe. Donc, c'était une destination, effectivement, où il fallait se rendre. Et Paris est resté très longtemps l'endroit où triompher. Mais, et d'ailleurs, Gluck venait de le faire. Mais cette incompréhension, en fait, elle venait plutôt de lui, parce qu'effectivement, il a raison, à maintes occasions, il aurait pu saisir la main qu'on lui tendait.
Incompréhension qui vient aussi du fait qu'il n'est pas toujours satisfait des interprétations qui sont faites de ses œuvres, loin de là, comme on l'entend dans cette lettre écrite à son père.
Il m'a fallu faire une symphonie pour l'ouverture du concert spirituel. Elle a été jouée pour la fête Dieu, avec un total succès. Il en a même été fait mention à ce que j'entends dire dans le courrier de l'Europe. Elle a donc extrêmement plu. À la répétition, j'ai eu très peur, car de ma vie, je n'ai rien entendu de plus mauvais. Vous ne pouvez pas imaginer comment ils ont deux fois de suite bâclé et écorché cette symphonie. J'étais vraiment effaré. Je l'aurais volontiers répété encore une fois. Mais parce qu'on répète sans cesse de si nombreuses choses, il n'y avait plus le temps. J'ai donc dû aller me coucher, le cœur serré, insatisfait et courroucé. Le lendemain, j'avais résolu de ne pas aller au concert. Mais le soir, le temps se mit au beau et je pris la résolution que si cela allait aussi mal qu'à la répétition, j'irai dans l'orchestre, arracherai le violon de M. Laoussaï, premier violon, et dirigerai moi-même. J'implorai de Dieu la grâce que cela aille bien, puisque tout est pour sa plus grande gloire. Et Ecce, la symphonie commença. Raph était debout près de moi et dès le milieu du premier allegro, il eut un passage dont je savais bien qu'il ne pouvait que plaire. Tous les auditeurs en furent transportés et ce furent de grands applaudissements. Mais parce que je savais comment je l'avais écrit, quel effet cela ferait, je l'avais remis encore une autre fois à la fin et cela alla da capo. De joie, j'allai donc aussitôt après la symphonie au Palais Royal, pris une glace, dis le rosaire que j'avais promis et rentrai à la maison. Car c'est toujours à la maison que je suis et que je serai toujours le plus volontiers. Ou chez un bon, vrai et honnête Allemand. Qui, s'il est célibataire, vit bien pour lui, en bon chrétien, et s'il est marié, aime sa femme et éduque bien ses enfants.
Et ben voilà, comme ça c'est facile, Bernard Faucroul. On entend Mozart très attentif évidemment à l'interprétation de ses œuvres. Est-ce que dans ses partitions, en réalité, on comprend à peu près comment il a voulu que ce soit interprété? Vous qui l'avez joué, j'imagine, à l'orgue, est-ce qu'il y a une part très large laissée à l'interprète?
Alors, si vous voulez, on est vraiment là dans le cas de figure classique qu'on trouve aussi chez Bach, par exemple, où le même musicien est interprète, improvisateur, compositeur. Il maîtrise la totalité de la chaîne musicale, qu'il soit instrumentiste ou qu'il soit chef d'orchestre. Et donc, on peut imaginer que, vu le niveau qualité absolument exceptionnel de l'écriture, que la qualité de l'interprétation devait être aussi exceptionnel.
Qu'est-ce que c'est
et son attente
dans l'écriture exceptionnelle. Enfin, quand vous lisez, vous voyez que c'est exceptionnel. Ça donne des indications. C'est que,
bah, que... oui. Si vous voulez, quand je lis la partition, c'est comme quand on l'entend à travers une interprétation dans un des enregistrements que vous choisissez. On entend là qu'il y a une écriture qui est absolument exceptionnelle et qui requiert du coup une. On dit souvent que Mozart, ça n'est pas très difficile. Il n'y a rien de plus difficile que Mozart. Parce qu'effectivement, ça n'est pas très difficile à déchiffrer. Hein. Si on prend les musiques, les sonates pour piano, par exemple, c'est infiniment moins virtuose que les sonates de Beethoven ou de plein de compositeurs qui ont suivi. Mais je pense que les grands pianistes vous diront tous que c'est sans doute parmi la musique la plus difficile à jouer par son apparente simplicité.
Yvan Alexandre ?
Oui, lui-même donne quelques indications. Par exemple, il critique le jeu des autres dans sa correspondance. Par exemple, il déteste Clementi parce qu'il trouve que ça ressemble à une machine à écrire. Alors, il ne dit pas machine à écrire, ça n'existait pas. Enfin, c'est comme ça. Il l'appelle Mechanicus. Et lui-même dit, par exemple, il répète plusieurs fois, je crois, et ça vaut aussi bien pour le chant que pour le clavier, que pour n'importe quoi, que le rubato, qui est une notion très importante chez lui, cette espèce de cantabile, c'est exclusivement pour la main droite et que la main gauche doit être absolument régulière. C'est-à-dire que, en fait, le rythme ne change jamais. On ne fait pas ce qu'on veut. Il n'y a pas de vrai grand rubato dit romantique. On ne change pas de tempo. Il y a une espèce de basse qui ne bouge jamais, presque comme dans la musique populaire. Par contre, la main droite, le chant ou la voix peut se permettre de jouer avec comme un skieur entre les poteaux. Ce qui est très rigolo quand même, juste un petit mot sur ce qu'on vient d'entendre dans cette lettre que j'aime beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, vous avez remarqué, si quelqu'un dans l'assemblée ose et mettre un petit applaudissement à la fin du premier mouvement, vous avez une bande de philistins qui se mettent à crier « Chut !» Enfin, laissez-nous écouter. Alors que Mozart, lui, quand on applaudissait son premier accord ses trois premières minutes en plein milieu du mouvement, il était parfaitement enchanté. Et j'imagine la tête de Mozart, si on attendait la fin d'une symphonie pour applaudir, il se serait suicidé, je pense.
Alors là, vous nous donnez déjà un aperçu de la personnalité de Mozart. On l'a aussi un peu entendu dans la lettre précédente, mais cette personnalité, elle émerge beaucoup dans la lettre que je vous propose d'écouter, où on entend un Mozart tout de même assez surexcité.
Mannheim, 13 novembre 1777. Maintenant, me dit ma mère, écris-lui donc pour une fois une lettre raisonnable. Cela ne t'empêchera pas d'y mettre des plaisanteries, mais en lui disant que tu as bien reçu toutes les lettres, qu'elle n'ait plus à se faire de soucis ni d'inquiétude. Ma très chère nièce, cousine, fille, mère, sœur et épouse, jarnet coton, ventre cingris, mille sapristis, croix de malheur, par tous les diables, sorcières et nécromants, bataillons d'enfer à n'en plus finir, par le sang bleu, par l'air, l'eau, la terre et le feu, par l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, par les jésuites, augustins, bénédictins, capucins, mineurs, franciscains, dominicains, chartreux et croisiers, chanoines réguliers et irréguliers, et par tous les tirs aux flancs, chenapans, salopards, crevures et ganaches en pagaille, par les ânes, buffles, bœufs, les fous, les bonnets, les renards. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Quatre soldats, trois cantinières. Un paquet et pas de portrait. J'étais déjà plein de désirs. J'y croyais pour de bon, car vous m'aviez dit vous-même, voilà peu, que je le recevrais bientôt, très bientôt. Douteriez-vous peut-être que je tienne aussi ma parole? J'espère bien que non, que vous n'en doutez pas. Eh bien, je vous en prie, envoyez-le-moi. Le plus tôt sera le mieux. Et j'espère qu'il sera comme je vous ai prié de le faire faire. En costume à la française.
Alors, Bernard Faucroul, on a beaucoup étudié cette personnalité de Mozart, mélancolie profonde, saute d'humeur, et puis à côté de ça, exaltation. On a dit qu'il était maniaco-dépressif. Comment vous le voyez, vous, ce personnage ? Il vous est cher, il vous est sympathique ?
Oui, enfin, c'est surtout son œuvre qui m'est chère, j'avoue, parce que ne l'ayant pas connu, je suis plus intéressé par l'œuvre. Ce qui me semble apparaître, c'est que ça a été quelqu'un qui a vécu à toute vitesse, qui a vécu, d'ailleurs il y a une caractéristique médicale qui décrit ça aujourd'hui, il a certainement été quelqu'un qui, dans une vie de 36 ans, a eu l'équivalent en termes d'intensité de vie, de travail, de composition, de quelqu'un qui en a vécu 80. Et donc il a dû sans doute aussi, en termes d'intensité émotionnelle, passer d'états extrêmes, peut-être dépressifs, à des moments extrêmement joyeux. Ce qui me frappait en réécoutant cet extrait de lettre, c'est la dimension un peu surréaliste. Hein, c'est de voir quelqu'un qui, dans cette sorte d'écriture automatique, sort de toutes les contraintes du 18e. On n'est plus au 18e, là. On est autour d'André Breton.
Mais c'est une correspondance privée aussi.
Oui, mais... voilà, il y a des choses absolument hors normes qui se dégagent.
Yvan Alexandre, c'était un écrivain, Mozart, au fond?
Un écrivain, non, là, j'avais pas cette prétention. Il n'a pas écrit des textes. D'autres compositeurs ont écrit des livres, des textes. Son père, déjà, a écrit un traité. Mais d'autres compositeurs se sont fendus de ce qu'on pourrait appeler de la littérature musicale. Rameau a écrit un traité aussi. Et d'autres, Berlioz écrivait des nouvelles, par exemple. Lui, c'est pas son cas. Par contre, sa correspondance, c'est curieux ce que dit Bernard, parce que lui parle d'André Breton. Moi, je pense que c'est plutôt à Rabelais. Et il y a un côté esprit de la liste, comme ça, cette espèce de litanie qui peuvent quelquefois tourner en plus très en dessous de la ceinture le concernant.
Je vous propose, puisqu'on s'approche de la fin de cette émission, d'écouter une dernière fois André Tuboeuf sur les années viennoises, qui vont être donc les 10 dernières années de Mozart, ces années où il va être au fond le premier compositeur freelance de l'histoire de la musique, puisqu'il a quitté toutes ses tutelles.
Sa première idée d'indépendance, c'était de mettre ses talents de pianiste, claveciniste, qui avait été reconnu à Vienne depuis le début, depuis sa petite enfance, de les mettre au service de ce nouveau génie qui était en train d'apparaître en lui, qui est son génie de compositeur, le génie qui va faire de lui le compositeur Mozart. Or, carrière de compositeur, ça demande qu'il y ait impression et édition des œuvres. Et c'est là que malheureusement Mozart est tombé dans un piège plus grand que lui, avec une naïveté qui est tout Mozart. Il ne s'est pas rendu compte que en faisant lui-même les frais d'imprimer ses œuvres pour que les gens puissent les acheter et les jouer chez eux, il se dépouillait purement et simplement de son œuvre, que n'importe quel copiste allait s'y mettre, qu'on allait jouer du Mozart sans avoir besoin d'entendre Mozart jouer par Mozart, et qu'il allait se tromper complètement dans ses calculs. Alors Vienne lui donne à plein la capacité de plaire, et de plaire, si je puis dire, sous toutes les coutures. Il avait de jolis cheveux, il aimait les poudrées, il était joli garçon, voilà, il était petit mais plaisant, et adorait les beaux habits, adorait la bonne chair. Il adorait l'idée d'être riche, si on pouvait être riche simplement parce que le bon Dieu, par reconnaissance pour la musique que vous écrivez, vous inondait d'une pluie d'or. Donc Mozart a été autant frustré à Vienne qu'il a été ronronnant, si je puis dire, dans la mesure où le lendemain venait à lui manquer ce qui la veille lui paraissait assuré.
La semaine dernière, j'ai donné un bal dans mon appartement. Mais il va de soi que les chapeaux, les hommes, ont payé chacun 2 florins. Nous avons commencé à 6 heures du soir et fini à 7 heures. Quoi ? Rien qu'une heure ? Oh, non, à 7 heures du matin. Mais vous n'allez pas comprendre comment j'ai eu la place suffisante. Ah, je m'aperçois seulement que j'ai toujours oublié de vous écrire que depuis un mois et demi, j'ai un autre logis, aussi sur le haut pont et à quelques maisons de distance. Ainsi, nous demeurons dans la petite maison Erbenstein, numéro 412, au 3e étage, chez Monsieur de Wetzlar. Wetzlar von Plankenstern, un riche juif. J'ai là une pièce de 1000 pas de long, une chambre à coucher, une antichambre et une belle grande cuisine. Et il y a encore, à côté de nous, 2 belles grandes pièces qui sont encore inoccupées. Ce sont celles que j'ai utilisées pour ce bal privé. Le baron Wetzlar et sa femme y étaient, ainsi que la baronne Wallstetten, monsieur d'Edelbach, Benedikt S. von Edelbach, fils du professeur de droit de Salzbourg Franz Joseph, Gilowski, le fanfaron, Stéphanie le jeune et Juxor, Adam Berger et sa femme, Lange et sa femme, etc., etc. Il m'est impossible de vous citer tout le monde.
Alors voilà, viennent des fastes, viennent des dettes aussi, il dépense beaucoup pour sa femme notamment, qui est très souvent un cœur à baleine. Et puis il va y avoir cette année de maladie, une année pourtant extrêmement productive, le Requiem. Malheureusement la fin tragique à 35 ans. Qu'est-ce que vous retenez l'un comme l'autre de Mozart très rapidement, car on est déjà très en retard, Bernard Faucroul?
Alors moi, ce que je retiendrai, c'est cette extraordinaire capacité de son œuvre, surtout des chefs-d'œuvre, de continuer à vivre et à nous révéler sans cesse de nouvelles choses, musicalement et dramatiquement. Autrement dit, les œuvres sont là, nous pensons les connaître, et à chaque grande nouvelle interprétation, nous découvrons de nouvelles choses, et ça, c'est le signe d'être très, très grand.
Yvan-Alexandre, un mot ?
Oui, moi, je pense qu'en matière de génie, c'est quand même très difficile, on n'a pas toutes les clés. J'y verrais assez bien, si vous voulez, pour couper en deux la différence entre le génie d'un Jean-Sébastien Bach, dont on a l'impression qu'avec une matière brute, il a réussi à fabriquer de manière mécanique du vivant, un peu comme le bon Dieu, qui prend de la terre pour en faire du vivant, mais qui est fabriqué vraiment de ses mains, de Mozart, dont on a le sentiment qu'il a trouvé les clés du verger, c'est-à-dire que tout ça existait, mais lui seul savait où c'était, et il nous a montré quelque chose qui était là, mais que lui seul savait découvrir.
Voilà, c'était Une vie, une œuvre, le dernier de la saison en direct du Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence. Un grand merci à mes deux invités, Bernard Faucroul et Yvan-Alexandre. Merci également à André Tubeuf et Patrick Taïeb pour leurs interventions. Les textes étaient lus par Régis Royer. À la technique aujourd'hui, c'était Adrien Gadza, Mathieu Tourin, Mathieu Leroy, Roland Dandalex à la réalisation, Julie Béressi, attaché de production Laurence Genepin. Une émission de Mathieu Garrigou-Lagrange. Avec la grille d'été qui débute lundi prochain, il s'agissait donc du dernier Une vie, une œuvre de la saison avant les rediffusions, car ce sera tous les samedis que vous pourrez nous retrouver, et les dimanches aussi d'ailleurs, de 17 à 18h autour de quatre thématiques: polar, design, musique et voyage. Et puis c'était également, je vous l'annonce, mon dernier Une vie, une œuvre en tant que coordinateur de l'émission. Mais rassurez-vous, l'émission continuera l'an prochain, et puis moi je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir tous les lundis de 15h à 16h pour une nouvelle émission sur les modes de vie et l'urbanisme. Augustin Trapenard, le carnet d'or, c'est à vous. Très bon après-midi à toutes et à tous, à l'écoute bien sûr de France Culture.